Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B. Tous les samedis à 11h, rediffusion le dimanche à 16h30.
Bonjour tout le monde, bonjour Sandrine.
Bonjour Juliana.
Bonjour Blaise.
Bonjour.
Eh bien, je suis très heureuse de partager cette émission radio, Le Nombril de Vénus, avec vous, de coup de cœur littéraire que nous allons vous présenter aux auditeurs et aux auditrices de Canal B pour aujourd'hui. Alors, c'est quoi vos coups de cœur du moment, les filles ?
Alors, mon coup de cœur, eh bien, c'est Une année à la campagne de l'autrice Sue Hubel.
Extra.
Mais oui, j'adore.
Et Blaise, alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui, Blaise ?
Moi, c'est les cahiers d'Esther.
Ah yes ! Ça y est, le tout dernier est sorti ?
Oui.
Et Esther, elle a désormais quel âge ?
Eh bien, elle a 17 ans.
Oula, ça promet ! Eh bien, moi, pour ma part, je vais vous parler de magnifique livre qui est paru aux éditions Seuil, l'art et la manière de la merveilleuse Barbara Carlotti. Un livre plutôt érotique, donc nous allons faire ça tout en douceur. Mais je crois que nous allons commencer aujourd'hui avec toi, Sandrine.
Oui, avec grand plaisir, Julia. Bonjour, Blaise.
Bonjour.
Alors, je vais vous présenter une autrice naturaliste qui s'appelle Sue Hubel. Qui est-elle ? Alors, en fait, c'est une écrivaine américaine qui est née en 1935 et qui est décédée en 2018, donc il y a peu. Mais elle nous a laissé un ouvrage absolument merveilleux, un ouvrage qui nous permet d'être dans l'instant vivant, dans l'instant présent. Quel est-il ? Simplement une année à la campagne. Donc nous allons traverser 4 saisons, évidemment, avec elle, à ses côtés, mais pas seulement. Avec qui ? Avec toute une colonie, une compagnie d'abeilles, puisqu'elle deviendra apicultrice et qu'à travers ce qu'elle va rencontrer, ce qu'elle va vivre, tout ça, elle va nous montrer en quoi l'instant présent et les petites choses amènent à des grandes choses, à juste à la contemplation de la beauté, à l'observation des abeilles, des animaux, qui ensuite nous amènent à la nature, et la nature peut-être tout simplement au sens de la vie. En tout cas, le sens de l'instant du moment. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, il se lit très bien, c'est quand même un gros ouvrage, il n'est pas si petit. Et puis, ce que j'aime, c'est cette préface de Jean-Marie-Gustave Le Clézio, un auteur que j'aime beaucoup, qui nous fait voyager, qui nous amène dans différents pays, différents continents. Donc là, on arrive où ? On arrive aux États-Unis, évidemment, l'histoire d'une femme avec son mari, qui ont un désir de partir et qui nous font rencontrer voilà, cette vie à la campagne. Donc il faut savoir que c'est effectivement un texte très dépaysant, un texte instructif, c'est pas facile à dire, mais j'y suis arrivée.
Instructif par quel côté ?
Par le côté, eh bien, en fait, simplement de la vie de ces abeilles, tout simplement. On a aussi un côté, à un moment donné, d'observation et d'apprentissage sur la vie d'apicultrice. Donc, ça peut être aussi un ouvrage à saisir comme un documentaire. Voilà, c'est une double entrée. Si on est intéressé...
Un côté scientifique, tu veux dire ?
Voilà, tout à fait. Un côté scientifique, biologiste, puisque cette femme a fait des études de biologie. Et puis, voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et ce que j'aime aussi, c'est ce parallèle qu'on peut faire avec ce grand philosophe, Henri David Thoreau, qui nous a laissé aussi un ouvrage de philosophie très intéressante au XIXe siècle, sur la vie dans les bois, puisque son ouvrage s'appelle Walden ou la vie dans les bois. Ouvrage très intéressant de philosophie, qui est souvent étudié aussi, que j'ai dans la main. On le trouve en extrait, et le titre, tenez-vous bien, comment s'appelle-t-il ? De la simplicité. Et à travers cet ouvrage de la simplicité, nous rentrons aussi dans quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous montre en quoi la vie dans les bois peut avoir un aspect très intéressant. Nous qui sommes, en tout cas pour ma part, dans une vie très contemporaine, je sors du métro, enfin voilà, on a une vie urbaine. Et à un certain moment donné, pardon, j'en bégayais, s'interroger sur le sens de ce que peut nous apporter la nature, la simplicité, non pas le repli sur soi, mais le retour à soi. Voilà. Et j'ai très envie, évidemment, naturellement, est-ce que vous êtes d'accord que je vous fasse une lecture du texte « Une année à la campagne » ?
Ah oui, avec grand plaisir, hein Blaise ?
Oui.
Alors, c'est parti. Donc, il faut imaginer cette femme qui vit aux États-Unis dans une ville très, très, très urbaine et qui part avec son mari et nous arrivons dans la première saison, le printemps. L'endroit est d'une telle beauté que j'en ai presque les larmes aux yeux, la première fois que je l'ai vue il y a maintenant 12 ans. J'éprouve aujourd'hui encore la même émotion. Aussi ne me suis-je jamais beaucoup souciée de savoir le nombre d'hectares composant le domaine, ni où se trouvaient ses limites précises, et qui exactement possédait quoi. Mais ce qui lui confère sa beauté et le rend si désirable à mes yeux a également convaincu d'autres créatures que cette terre était exceptionnelle et leur appartenait tout autant. En ce moment, par exemple, je me fais un peu l'effet d'une intruse, ayant découvert que je vivais au milieu d'un ghetto de bruants indicaux. Pour un ghetto, c'est un endroit fort joyeux, mais qui m'a contrainte à réfléchir aux droits de propriété. Qu'est-ce que les bruants indicaux ? Eh bien, ce sont des oiseaux de petite taille mais vivaces. Ils s'imaginent que l'endroit leur appartient et il est difficile d'ignorer leurs revendications. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là. Et voilà, de quoi parle cette femme de cette
J'étais suspendue à tes lèvres, Sandrine. Ah oui, trop bien.
Avec plaisir, voilà. Un très beau livre, Une année à la campagne de Sue Hubel.
Alors, c'est quelque chose qui peut nous apporter aussi cette qualité de bien-être en lisant. Donc, quelque chose qui va de pair peut-être un peu avec la saison que nous vivons actuellement, non ?
Alors oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous permet de nous dépayser. C'est comme une parenthèse, voilà, une parenthèse qu'on s'offre au moment de la lecture. Mais ce qui est bien, c'est que ça reste, c'est-à-dire que ce n'est pas juste éphémère. Ça nous fait réfléchir et ça nous donne du bien-être, évidemment. On se sent apaisé, on a l'impression d'être à ses côtés, en forêt. C'est extrêmement vivifiant et rafraîchissant.
Oh là là, tout le contraire d'ailleurs de la chronique précédente. Là, tu es vraiment débarqué avec une zénitude qu'on n'avait pas entendue la semaine dernière. Oui, Blaise.
Est-ce que tu nous le conseilles ?
Ah oui, absolument. Je vous conseille vraiment sa lecture. En plus, ça peut se lire à ton âge aussi. Voilà, bien sûr, comme tu es une grande lectrice, je sais que ça pourrait te plaire. Tu me diras par la suite, évidemment.
Et d'ailleurs, il est en format poche également.
Oui,
c'est ça qui est intéressant. Si on le souhaite l'acheter, mais on peut toujours franchir la porte d'une bibliothèque, n'est-ce pas ?
Absolument. Il coûte voilà, entre 7 et 8 euros en folio. Et juste pour ajouter, il y a la suite qui est parue chez Phébus. Attends, ça va vraiment avec l'émission ?
Oui.
Ça s'appelle « En attendant Aphrodite ».
Ah oui !
Je tiens à le dire,
génial.
Après Vénus, oui. Nous sommes avec Aphrodite. C'est pas génial ça ?
Si. Mais alors, vous savez qu'un nombril de Vénus, c'est une plante.
Oui.
Donc ça fait vraiment, comment dire, écho à tout ce que nous sommes en train de raconter, du moins dans cette première partie.
Il me semble que cette plante, elle ressemble un peu à un nénuphar.
Oui, mais en tout petit. C'est vraiment de la taille... Tu peux le poser pour le cacher, ton nombril, tu vois.
Oui.
On la trouve vraiment beaucoup ici en Bretagne, notamment à l'île aux Moines. Je l'ai vu plein.
D'accord. Et puis, bien sûr, il y a Vénus, la Vénus de Milo. J'ai quand même envie de le dire aussi.
Ah, oui.
Non, mais tout de même.
La merveilleuse.
En lien avec Aphrodite, voilà.
Absolument, tout ça est vraiment kiffant. Et ça me donne l'opportunité de vous dire qu'après entendre la voix de Barbara Carlotti, je vais avoir le bonheur de parler de ce livre que j'ai lu, que j'ai dévoré, mais que j'ai dû tout de même espacer les lectures, puisque une fois que tu as lu, tu as besoin de le digérer un petit peu, tu vois, tu restes en suspens. Donc voilà, c'est une lecture. Moi, je ne peux pas dire que j'ai dévoré le livre d'un trait, j'ai dû faire des pauses pour savourer en fait la suite, on va dire ça comme ça. Mais je pense que tu l'as lu également, hein, Sandrine.
Oui, absolument.
Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça?
Je suis d'accord avec toi, je l'ai effectivement lu, on peut dire chapitre après chapitre. Nouvelle après nouvelle, exactement. J'ai eu besoin de me poser, de prendre le temps, de savourer, exactement.
Oui.
C'est un livre qui se savoure.
Et c'est un livre d'été, hein, clairement. Hein. On va le dire comme ça, hein, clairement.
D'été, de soirée, de nuit.
Oui, complètement. Merveilleuse, pleine de talents, elle impose l'admiration, Barbara Carlotti.
Pas dessus, occupe-toi de moi. suis qu'une enfant, que peux-tu m'apprendre? Occupe-toi de moi, caresse mes cheveux. Non, je ne pleure pas, je pense parfois. Occupe-toi de moi, emmène-moi très loin. Raconte des histoires, dansons dans le noir. Je ne suis qu'une enfant.
Et si je peux me permettre, pour s'occuper de moi, il faudrait peut-être mettre l'art et la manière. C'est un peu le désir de ces différentes histoires sensuelles, troublantes et poétiques, je ne pourrais mieux dire, du livre de Barbara Carlotti, qui est paru aux éditions Seuil. J'adore ce livre, c'est une douzaine d'histoires qui vont être racontées, donc des histoires d'un point de vue très féminin, on va dire entre guillemets, mais pas féminin dans le sens péjoratif de terme. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui parlent et elles parlent avec une intimité, une liberté totale, on va dire. C'est vraiment troublant aussi d'entendre la diversité de ces désirs, la diversité de ce qui peut se passer en fait dans ce champ-là, le champ érotique, parce que bien sûr, on peut bien s'en douter que c'est un sujet inépuisable, mais je trouve vraiment que réunir toute cette palette dans un objet aussi merveilleux qu'un livre, ça nous permet vraiment un voyage sensoriel et un voyage des connaissances. Cette femme, elle est une érudite, bien sûr, elle a fait des références, des vers, de la poésie dans son écriture, elle écrit magnifiquement bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je crois que là, pour l'été, si vous ne lisez pas le livre de Barbara Carlotti, vous allez passer à côté de quelque chose, c'est clair. Et je ne parle pas que pour les femmes, bien entendu, bien au contraire. Il y a des hommes dans ce livre, des hommes charmants, des hommes amants, des hommes vraiment cruels, il y a de tout et il y a de la nature. Et dans cette nature magnifique, je vais vous lire vraiment un court extrait. Écoutons quelques phrases de ce passage, d'une des histoires, c'est la femme cascade. Donc elle est en pleine nature, hein. Voilà, je ne vous dis pas plus, vous allez découvrir. Et toutes ces femmes, bien sûr, elles ont un prénom. Là, c'est Éléonore. J'aime me faire tabasser par les chutes d'eau qui s'abattent du haut de la falaise. Je me faufile comme une anguille entre les jets, passe et repasse dessus, et l'eau martèle mes épaules, mes fesses, mes cuisses. Je m'étire, me cambre, me plie, me déplie. Je roule et pirouette en apesanteur, accompagnant le tumulte des flots, puis délassé, fouetté de fraîcheur, je nage jusqu'au bord et monte faire retirer mes membres sur la grosse pierre brûlante. Sur le ventre, bras et jambes écartés et lançant le rocher, la chaleur irradie et gagne mon corps. Le soleil mordit mon dos de ses griffes ardentes. Étoile de rivière mordue de chaleur, je m'assoupis effleurant du bout des doigts la roche blanche érodée, la joue collée à la pierre, les yeux accrochés au mouvement de l'onde. J'aime étreindre l'épiderme du basalte. Je m'imprègne de son parfum humide et mousseux. J'y dépose un baiser. J'honore la stèle, goûtant avec ma langue sa texture douce et rigide. Puis me retourne sur le dos, ouvrant mes jambes au bleu du ciel. Je crois que je vais m'arrêter là. Mais voilà, donc, quoi dire de plus ?
Mais ça donne super envie de le lire.
Mais oui, je ne te recommande pas, Blaise. Ce n'est pas pour ton âge. Mais toujours est-il que peut-être quand tu seras plus grande, Barbara Carlotti, son livre, qui me semble, c'est son tout premier livre.
Absolument.
Hein. C'est son premier livre. On la connaît autant que chanteuse, musicienne, interprète, compositrice. Et même, elle a fait aussi des films,
des films,
je crois.
Elle a joué comédienne.
Ouais. Et maintenant, nous sommes ravis de découvrir également son livre.
Ouais, merci beaucoup.
De rien, les filles.
C'est super.
On va faire une petite virgule musicale
avec
et on
plaisir.
Va entendre. Avec impatience,
oui.
Le nouveau Riyad Satouf.
Pas
de problème. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
Et je pense que la transition est tout à fait adéquate pour accueillir Esther Douo de ses 17 ans. N'est-ce pas, Blaise?
Oui.
Et tu as choisi aujourd'hui la toute dernière BD de Riyad Satouf, c'est ça?
C'est ça. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Les Cahiers d'Esther, son histoire de ses 17 ans.
Mm-hmm. Est-ce que tu as lu tous les tomes?
Oui, tous les tomes.
Ça démarre à quel âge?
De 10 ans jusqu'à 17.
Ah ouais, super. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter alors de plus sur cette BD?
Eh bien, je peux vous dire, je vais vous raconter un peu principalement sur le personnage Esther. Pardon. Elle habite au 17e arrondissement à Paris avec son père, sa mère et son petit frère. Avant, elle avait un grand frère, Antoine, qui la saoulait, mais maintenant, il a 20 ans, donc il n'habite plus à la maison, quoi, mm-hmm. avec eux.
Et Antoine aussi, c'était un vrai personnage à un moment donné.
Oui, en fait, il se faisait harceler dans son école. Il allait passer dans le côté obscur, quoi. Mais finalement, il a remonté la pente, il n'a pas raté sa vie. Et puis, il est devenu un bon mec en couple avec une fille intelligente. Esther, elle est au lycée. Au tout début de l'histoire, enfin, je voulais dire, dans l'histoire de mes 17 ans, au début, elle a 16 ans. C'est pareil, dans tous les tomes, au début d'avoir 10 ans, 11 ans, elle a toujours, par exemple pour 10 ans, elle a 9 ans juste
oui,
avant.
Oui, c'est la veille de les oui. anniversaires en fait.
C'est ça. Du coup, elle est au lycée avec sa super copine Cassandre et il va lui arriver plein d'aventures. Mais il faut savoir que les aventures ne sont pas toujours joyeuses. Il y a beaucoup de mots grossiers quand même. Hein.
Ah oui, d'accord. Donc, il faut bien que tu choisisses la lecture si jamais tu veux lire un passage. Parce que
oui, c'est ça, exactement.
Douo de tes 10 ans, tu ne vas quand même pas te mettre
oui.
à dire des vulgarités pour l'instant sur Canal B. Quoi.
C'est sûr. Par contre, dans mon passage, je ne vous promets rien parce que... Ben, il y a peut-être un moment, on ne peut pas dire que c'est trop vulgaire, mais je veux dire, pour un enfant de 6-4 ans, ce que je vais dire, c'est pas... Voilà, quoi.
C'est pas souhaitable.
Oui.
Okay. D'ailleurs, tu recommandes la BD pour quel âge ?
Je sais qu'en ce moment, il y a plein de jeunes qui en disent beaucoup, des 10, 11 ans, qui en disent beaucoup, mais je recommande quand même pour 12, 13 ans à cause de la vulgarité, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est surtout qu'on... Moi, j'avoue que quelques passages, j'ai pas trop compris ce que je lisais, parce qu'il faut quand même bien comprendre et bien savoir les mots.
Il y a des passages dans cette BD qui t'ont interpellé ?
Oui. Oui, oui. Par exemple, je vous fais une parenthèse, mais Esther va vouloir, parce qu'elle commence déjà à se mettre sur la voie, elle est au lycée, donc elle arrive bientôt pour son métier. Et elle choisit la voie, elle veut garder des enfants dans une colonie de vacances. Sauf qu'il y a un enfant qui a eu le coup de foudre pour elle, mais il a que 11 ans et elle a 17 ans. Et du coup, bah, il pleure et elle a un peu de peine, quoi.
Bien sûr.
Et du coup, bah, elle sait pas trop comment s'y prendre, donc elle dit « Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave, allez, viens m'aider à mettre la tente. » Enfin, elle voulait être gentille. Mais au bout de 4 jours, elle essaie d'être gentille et puis...
Il était colon.
Non, c'est pas ça. Oui, un peu, mais c'est pas trop ça. C'est la chef, elle lui demande dans son bureau, donc elle avait un peu la tête ailleurs, donc elle croyait qu'elle allait la féliciter, quoi. Mais elle lui a dit, non, écoute, je sais pas d'où tu sors, mais vraiment, je sais pas si je dois appeler la police, quoi. Parce que il croyait qu'elle était pédophile, enfin, qu'elle faisait des trucs bizarres avec les enfants, alors qu'elle faisait rien, elle essayait juste d'être gentille.
Qu'elle faisait rien, elle était gentille.
Oui, voilà, Esther, ouais, c'est une fille qui a plutôt la tête bien faite.
Oui.
On va dire ça comme ça. D'accord, donc des situations quand même un petit peu...
Oui, voilà.
Comment ça se raconte, l'histoire ? Parce que ce sont des chapitres qui sont très courts, non ?
Oui, c'est ça. Et en fait, des fois, il y a une grande page, enfin, juste une page pour juste une illustration, un dessin avec une écriture.
Mm-hmm.
Ça arrive dans tous les cahiers d'Esther. Sinon, c'est comme dans une vraie BD, quoi, des dessins et des écritures, mais en bande, quoi. Bah, en fait, une page est pour une histoire, mais je dis des fois, il y a 3 pages pour une histoire ou 2 pages pour une histoire, mais enfin, c'est différent, mais il n'y a pas 5 pages pour une histoire.
Est-ce que dans le dessin, tu as trouvé qu'Iyad Satouf, il fait bien grandir Esther, on la reconnaît bien, et puis les autres personnages, bien sûr?
Oui, bien sûr. Enfin, je trouve en fait le dessin, le talent d'Iyad Satouf incroyable, parce que dans tous les cahiers d'Esther, eh ben, Esther, on reconnaît bien Esther, hein. Il y a pas une fois où, même si elle change de coiffure ou tout ça, on va toujours la reconnaître avec ses traits, un peu son nez, tout ça. Mais elle se ressemble justement dans tous les cahiers et pourtant, on arrive à deviner qu'elle est plus grande, plus petite. Enfin, voilà quoi.
Alors, Esther, c'est un succès planétaire, n'est-ce pas ?
Oui.
Et c'est juste une jeune personne qui raconte sa vie. Ça, c'est incroyable.
Oui,
ça.
C'est bien un succès planétaire parce qu'à un moment, dans un des passages, il faut savoir que tout ce qu'on lit, c'est vrai, hein, mais dans un des passages, elle veut garder son identité secrète. En même temps, ce n'est pas la célébrité qui l'intéresse, c'est juste elle veut partager un peu sa vie, mais tout en restant secrète. Mais quand elle va regarder son téléphone, elle aura, attention, 300 millions d'abonnés quand même.
Ah oui.
De vues. C'est énorme.
Et oui, et donc c'est paru aux éditions, comme d'habitude d'ailleurs, hein.
À la rie.
Et ça vient d'arriver chez les libraires. Tu vas nous lire un passage, Blaise ?
Oui.
Tu aimes bien Esther également, Sandrine ?
Ah, j'aime beaucoup. C'est des tranches de vie. C'est vraiment très touchant, très émouvant. Voilà, on passe du rire aux larmes, de larmes au rire. C'est plein d'émotions. J'aime beaucoup. Ouais.
C'est parti pour toi, Blaise.
Exact. Alors, du coup, là, mon histoire va s'appeler L'appel masqué. Ces derniers jours, il m'est arrivé un truc chelou. Là, c'est moi en mode « Ah non, pas encore ». Quelqu'un n'arrête pas de m'appeler en masqué sans laisser de message. Par principe, je réponds pas quand c'est inconnu. Quand je matais mon tel, j'avais toujours 3-4 appels en absence. Au bout d'un moment, j'avais même peur de regarder mon tel. J'étais victime, clairement, d'harcèlement. Puis, au bout de quelques jours, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai répondu en mode agressif. « Allô ?» Arrêtez de m'appeler, arrêtez de faire ces appels. Je ne sais pas qui vous êtes, vous me harcelez. Une femme très autoritaire a parlé à toute vitesse. Bonjour, Esther A, c'est l'armée. Mon cœur a fait un bond. On voudrait être sûr que vous serez présente à la journée défense et citoyenneté. La semaine prochaine, vous n'avez pas répondu à votre convocation. J'ai immédiatement changé de ton. La meuf qui a pas de face. J'étais soudain la personne la plus mielleuse de l'Hexagone. Ah, je ne pensais pas qu'il fallait répondre. J'ai reçu. Honnêtement, ça peut paraître idiot, je flippais qu'il me dise un truc du genre « Comme vous n'avez pas répondu, vous partez en Ukraine faire la guerre. » J'y connais rien, moi. Bref, je me suis donc rendue au Centre de Service National et de la Jeunesse de Paris, à Vincennes, en mode « Quand faut y aller, faut y aller.
» J'adore.
Bravo, génial, super. Génial.
Bravo.
Et sur donc cette belle découverte, les 17 ans de Esther, merci beaucoup Blaise.
De rien.
Nous allons nous quitter les filles.
Déjà.
Mais pour mieux nous retrouver la semaine prochaine si
avec
vous le souhaitez.
Grand plaisir.
Ah oui,
bien
on va
sûr.
Continuer de lire pour vous raconter tout ce qui nous intéresse dans ces objets magnifiques qui s'appellent le livre.
Oui.
Merci, bonne journée à vous.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Écoutez le nombril de Vénus en podcast sur canalb.fr.
Bisous.
Bye.